Dans l'Antiquité, il n'y avait évidemment pas de four électrique. Alors les gens faisaient un grand feu avec du bois, puis mettaient des grosses pierres à l'intérieur du foyer. Une fois devenues brûlantes, on les poussait sur les bords du feu et on plaçait sur elles les aliments à cuire. Cette façon de faire est mentionnée dans l'Ancien Testament. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre d'Osée. Éphraïm se confond avec les autres peuples. Éphraïm est pareil à la galette qu'on n'a pas retournée. Verset 8. Le prophète compare Israël Nord à une galette qu'on aurait laissé brûler d'un côté tandis que de l'autre, la pâte est encore crue. Cette image signifie que le royaume des dix tribus n'est ni entièrement le peuple de Dieu, ni une nation purement païenne, puisqu'il restait quand même des vestiges de la loi de Moïse en son sein, et même quelques Israélites qui, au lieu d'adorer les idoles, invoquaient encore le nom de l'Éternel. Précédemment, Osée a évoqué l'anarchie qui régnait au niveau politique et religieux dans le royaume des dix tribus. Maintenant, il lui reproche son alliance avec des nations étrangères. On sait que le roi Menahem, ayant dû faire face à une révolte, avait demandé l'aide du roi assyrien qui avait envahi le territoire israélite à l'est du Jourdain. Ce dernier a soutenu Menahem, mais en échange de 34 tonnes d'argent. Plus tard, Pekah, le roi d'Israël Nord, a formé une coalition avec Retsin, le roi de Syrie, afin de résister aux Assyriens. Ensemble, ils avaient même envahi Juda, sans toutefois pouvoir conquérir Jérusalem. Je continue le texte. Des gens venus d'ailleurs ont épuisé sa force sans qu'il s'en aperçoive. Déjà, les cheveux blancs lui garnissent la tête sans qu'il s'en aperçoive. Verset 9. Israël Nord est comme un homme qui vieillit avant l'âge, mais ne s'en aperçoit pas. Les dix tribus étaient obligées de verser de grosses sommes d'argent à des puissances étrangères, à l'Égypte, mais surtout aux Assyriens, en échange de leur soutien ou pour avoir la paix. Mais cette stratégie drainait ses ressources et sapait son dynamisme économique. Cependant, le roi et ses grands ne se rendaient pas compte qu'ils suivaient une politique désastreuse qui entraînait le déclin du pays. Je continue. Mais l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Malgré tous ces malheurs, eux, ils ne sont pas revenus à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne se sont pas tournés vers lui. Verset 10. C'est par orgueil que les dirigeants du pays refusaient de s'humilier devant l'Éternel et de revenir à lui. Ils auraient pu demander son aide au lieu de payer des tributs. Mais non, par pure arrogance, ils s'obstinaient à poursuivre une voie sans issue. Je continue. Éphraïm est semblable à un pigeon naïf qui n'a pas de cervelle. Il appelle l'Égypte à l'aide, il va en Assyrie. Verset 11. Osée décrit la politique étrangère d'Israël qui oscille entre l'Égypte et l'Assyrie, tantôt l'un, tantôt l'autre. Comme je l'ai déjà dit, sous le règne du roi Menahem, Israël Nord devint vassal de l'Assyrie. Plus tard, le roi Pekah se joignit aux Syriens contre les Assyriens, ce qui n'empêcha pas qu'une partie d'Israël Nord soit envahie par eux et leurs habitants déportés. Osée, le dernier roi d'Israël Nord, s'empara du pouvoir grâce à l'appui de l'Assyrie. Mais une fois roi, il fit marche arrière, arrêta de verser le tribut et tenta de s'allier avec l'Égypte, ce qui entraîna la destruction d'Israël Nord. Je continue. Mais pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui et je le fais tomber comme un oiseau. Je les châtirai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Verset 12. Israël est à la recherche d'alliances, à droite ou à gauche, mais il sera châtié par Dieu et finira comme un pigeon pris dans le filet de l'oiseleur. Après 3 années de siège, Samarie, la capitale du royaume des 10 tribus, tomba aux mains des Assyriens. Cette fin était conforme aux menaces que les prophètes avaient proférées, mais que les Israélites n'avaient pas écoutées. Je continue. Malheur à eux, car ils m'ont fui. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Moi, je les délivrerai bien, mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. » Verset 13. Précédemment, le prophète Osée a fustigé Israël Nord parce qu'il y régnait l'anarchie politique et religieuse et à cause de ses jeux d'alliance désastreux avec des nations étrangères. Maintenant, il accuse les Israélites d'avoir abandonné l'Éternel. C'est en fait la pire des fautes, et pour cette raison, ce paragraphe commence sur une note sinistre qui annonce un malheur imminent. Non seulement les Israélites ont déserté l'Éternel, mais ce sont aussi des traîtres qui sont passés à l'ennemi dans le sens qu'ils offraient un culte aux idoles. Pourtant, Dieu voudrait les délivrer de la menace assyrienne comme il l'a déjà préservée d'invasions étrangères dans le passé, mais il ne peut intervenir à cause de leur incrédulité et des propos outrageux qu'ils tiennent à son égard quand ils disent que l'Éternel n'a pas la capacité de les sauver et qu'il vaut donc mieux chercher de l'aide auprès de l'Égypte. Je continue. « Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Quand ils se font des incisions pour du blé et du vin, de moi ils se détournent. » Verset 14. La préoccupation essentielle des Israélites était de rechercher l'abondance matérielle. On serait tenté de leur jeter la pierre, mais il faut savoir que leur situation était précaire. Ils vivaient sur un fil, pour ainsi dire, le fil du rasoir, car sans pluie, il n'y avait pas de récolte et donc c'était la famine. L'Éternel avait promis à son peuple que s'il l'invoquait et lui obéissait, il aurait de la nourriture à satiété, mais au lieu de se soumettre à Dieu, quand le ciel était d'airain, les Israélites se lamentaient et couraient consulter leur fausse divinité. Baal, en particulier le dieu de l'orage et de la fécondité. Les prêtres, à son service, se faisaient des incisions pour réveiller l'idole, afin qu'elle se bouge et fasse pleuvoir. Elle était vénérée pour ça. Se couper dans sa chair était également un signe de deuil ou de profonde détresse. Ces pratiques étaient évidemment interdites par la loi de Moïse. Je continue. « Moi, je les instruisais. » Je fortifiais leurs bras, mais ils méditent le mal contre moi. Verset 15. Je fortifiais leurs bras est une référence à Dieu qui donne la victoire militaire. Or, le roi Jéroboam II, bien qu'idolâtre jusqu'au bout des ongles, avait entrepris plusieurs guerres contre ses voisins et avait triomphé. Mais au lieu de reconnaître la main de l'Éternel, les Israélites l'avaient abandonné et en plus, il lui était fortement hostile, ce qui est le comble de l'ingratitude. L'expression « il médite le mal contre moi » est violente. Elle est utilisée dans le livre de la Genèse quand Joseph dit à ses frères « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » Je finis le chapitre 7. Ils se tournent, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc faussé. Aussi, leurs chefs tomberont par l'épée à cause de leurs propos arrogants, et l'on rira d'eux en Égypte. Verset 16. Un arc faussé ne permet pas de viser juste. Cette image décrit la démarche du royaume des 10 tribus qui fait fausse route. Au lieu d'invoquer l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, ils se tournent partout ailleurs. D'une part vers les idoles, et d'autre part ils essayent de forger des alliances à droite et à gauche, mais rien ne leur réussit car la délivrance ne vient pas des hommes, mais de l'Éternel. Précédemment, le prophète a dit que l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Maintenant, il qualifie ses chefs d'arrogants, sans doute parce qu'ils rejettent sur Dieu la responsabilité de leur malheur. Cette insolence leur vaudra d'être tués lorsque les Assyriens feront le siège de Samarie. Pendant ce temps, dans les coulisses du palais du Pharaon, on se moque d'Israël, mais rira bien qui rira le dernier. Le prophète Ézéchiel prononça 7 oracles de jugement contre l'Égypte parce que cette nation n'avait pas été un allié sur lequel Juda avait pu s'appuyer. Nous arrivons au chapitre 8 qui fait partie encore du premier cycle d'oracles de condamnation formelle d'Israël Nord. Ce chapitre contient plusieurs illustrations de la rébellion du peuple de Dieu et annonce spécifiquement la venue du jugement. Alors qu'il contemple la vision que Dieu lui donne, Osée est profondément ébranlé, ce qui se ressent dans son style, qui en hébreu est saccadé, et dans ses phrases, qui ne sont pas toujours complètement formées. Il parle sous le coup de l'émotion. Je commence à lire le chapitre 8. « Embouche donc le corps. C'est comme un aigle sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance et ils ont transgressé ma loi. » Verset 1. Comme l'aigle qui plane avant de fondre sur sa proie, Osée voit le jugement prêt à tomber sur le pays d'Israël Nord. Il demande à une sentinelle virtuelle de sonner l'alarme, car il aperçoit l'ennemi. Les armées assyriennes sont en route. Cette invasion correspond à l'une des malédictions de la loi de Moïse. Le vocabulaire de ce passage montre que l'Éternel traite Israël comme son vassal et, après lui avoir intenté un procès, il lui annonce le châtiment. Dieu ne prend pas son peuple par surprise car il l'avait averti que s'il transgressait le traité d'alliance, il serait chassé de son pays. Moïse avait bien dit à Israël que s'il obéissait à la loi, il serait béni, mais s'il se rebellait, il serait sévèrement jugé. Cela dit, et contrairement à l'alliance de la loi, les promesses que l'Éternel a faites à David et à Abraham tiennent toujours parce que aucune condition ne leur était attachée. En conséquence, un jour, Israël reviendra définitivement dans son pays et n'en sera jamais plus chassé. Mais entre-temps, Israël est sous le régime de la loi qui était une alliance conditionnelle. L'ayant violée, le royaume du Nord puis Juda ont dû subir les sanctions prévues, dont l'exil. Je continue le texte. « Ils crient vers moi, ô toi notre Dieu, nous te connaissons, mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. » Versets 2 et 3. Une fois encore, le peuple se fait de douces illusions. Il prétend connaître l'Éternel, mais c'est un faux semblant destiné à gagner ses faveurs face à la menace assyrienne. En réalité, par son comportement coupable, Israël a rejeté ce qui est bien, c'est-à-dire les exigences morales contenues dans la loi. Je continue. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs sans mon approbation. Il a utilisé son or et son argent pour se fabriquer des idoles qui leur seront ôtées. Verset 4. Plusieurs fautes spécifiques sont mentionnées. D'abord, Israël Nord s'est séparé de Juda et de la lignée de David, qui est la seule légitime. Ensuite, les rois qu'Israël Nord se donnait prenaient le pouvoir au moyen de conspirations et d'assassinats. C'était la loi de la jungle qui prévalait, et les changements de dynastie se faisaient dans un bain de sang. Troisièmement, avec l'or et l'argent que Dieu leur avait donné, les Israélites se sont fabriqués des idoles, et surtout les veaux d'or. Non seulement les Israélites ont fait une grosse entorse à la loi de Moïse, mais il est stupide d'exposer du métal précieux à la vue de tout le monde, car il va forcément attiser les convoitises. Et c'est ce qui est arrivé puisque les Assyriens sont venus piller les richesses du pays. Je continue. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Verset 5. Jéroboam Ier avait installé deux veaux d'or en Israël Nord. L'un était tout au nord, dans la ville de Dan, et l'autre au sud, à Bethel, près de la frontière avec Juda. Samarie représente l'ensemble du royaume, et le veau dont parle Osée est celui de Bethel, car c'est lui qui attirait le plus de monde. Je continue. « Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu, il sera mis en pièces, le veau de Samarie. » Verset 6. Ce veau d'or fabriqué main était un vulgaire morceau de bois plaqué or. Il n'avait rien de divin et pourtant le roi Jéroboam Ier a dit au peuple « Voici votre Dieu Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il me semble qu'en entendant cela, les gens auraient dû se rouler par terre de rire. Mais non, ils ont avalé le bobard dans sa totalité. La crédulité des Israélites est époustouflante. En tout cas, les archéologues n'ont jamais retrouvé la moindre trace de la bête parce qu'il est quasi certain que les Assyriens l'ont emportée et fondue pour en récupérer le métal. Je continue. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Blé sans épi ne produira pas de farine, et même s'il en produisait, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Verset 7. Semer le vent correspond à la futilité à la fois des idoles et des alliances avec des nations étrangères. La conséquence de ces choix catastrophiques est la tempête, c'est-à-dire la venue des armées assyriennes qui ravageront Israël. Le blé sans épi décrit le rendement quasi nul des cultures agricoles et même le peu qu'elles produiront sera pillé par les Assyriens. Je continue. Oui, Israël a été dévoré, le voici désormais au milieu des nations comme un objet indésirable. Verset 8. Le prophète parle au passé parce que le processus de jugement est déjà enclenché et plus rien ne peut l'empêcher d'aboutir. Le tribut qu'Israël Nord est obligé de payer aux Assyriens consomme ses ressources et ce n'est qu'un début, car bientôt la nation entière sera prise et ses habitants seront dispersés parmi les païens qui les considéreront comme un objet indésirable, littéralement comme un pot dont personne ne veut. C'est pas très flatteur. Je continue. Car Israël est allé s'adresser à Assur comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amants. Verset 9. Le prophète assimile le royaume des 10 tribus à une variété d'ânes sauvages qui est solitaire et qu'on trouve dans les endroits inhabités. La comparaison est intéressante parce qu'il y a effectivement un désert qui sépare Israël aussi bien de l'Égypte que de l'Assyrie. Têtu comme une mule et fier comme un coq sur son fumier, Israël, femme de l'Éternel, a refusé de se soumettre à son Dieu. Mais par contre, elle s'est abaissée à chercher des amants qui étaient tantôt les Assyriens, tantôt les Égyptiens, et qu'elle a dû payer au prix fort et finalement pour sa propre perte. Comme je l'ai déjà dit, les Écritures rapportent que Menahem, roi d'Israël Nord, acheta l'appui des Assyriens pour 34 tonnes d'argent, mais en plus cela leur ouvrit toute grande la porte de la Palestine. Je continue le texte. Mais ils auront beau faire des présents aux nations, je vais les rassembler et ils dépériront très bientôt sous le joug du roi des princes. Verset 10. Le prophète annonce ici la fin du royaume des 10 tribus. Le roi des princes est l'empereur assyrien Tiglath-Pileser III. Menahem n'est pas le seul qui ait dû verser un tribut aux Assyriens. Osée, le dernier roi d'Israël Nord, était lui aussi tributaire de l'empereur d'Assyrie. Je continue. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. Verset 11. L'autel est l'endroit où l'homme offre un culte au Dieu unique et vrai. Même aujourd'hui, les croyants ont un autel, mais il est dans les cieux et assimilé au trône de Dieu, qui est aussi la source de la grâce. Israël possédait un seul autel légitime et il se trouvait dans le parvis du temple de Jérusalem. Tous les autels qui parsemaient Israël Nord étaient donc une expression de la rébellion du peuple, surtout qu'ils servaient aussi bien pour adorer l'Éternel que les idoles, car pour les Israélites c'était du pareil au même. Et quand ils offraient un sacrifice pour leurs péchés, ils agissaient en hypocrite parce que leur cœur n'était pas droit, étant donné qu'ils n'obéissaient pas à la loi. En fait, ils accomplissaient un rite religieux, un peu comme quand on s'adonne à des pratiques occultes afin d'obtenir les faveurs d'un dieu, peu importe lequel. La multiplication des autels ne servait donc qu'à perpétuer des actes qui offensaient l'Éternel. Je continue. Et si j'écris pour Éphraïm 1000 exemplaires de ma loi, il la considérera pour une chose étrangère. Verset 12. Il serait inutile de mettre les paroles de la loi dans chaque foyer, car de toute façon, les Israélites n'en font qu'à leur tête. je continue. Les victimes qu'on m'offre, eux, ils les sacrifient pour en manger la viande. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il fera le compte de leurs fautes et il les châtiera pour leurs iniquités. Ils retourneront en Égypte. Verset 13. Selon la loi de Moïse, une partie de la viande des sacrifices revenait aux prêtres et parfois aux adorateurs. Même si ces offrandes avaient une apparence religieuse, leur véritable but était de créer une occasion de faire bonne chère et la fête, probablement en compagnie des prostituées sacrées. De tels sacrifices insultaient Dieu, qui va envoyer Israël en exil pour le punir. Dans les Écritures, l'Égypte représente la servitude. Plus loin, le prophète précise qu'Israël Nord sera déporté en Assyrie. Je finis le chapitre 8. Oui, Israël a oublié celui qu'il a créé et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes, mais j'y mettrai le feu qui consumera leurs palais. Verset 14. « Je mettrai le feu » est un refrain qui revient souvent chez le prophète Amos. Israël Nord, mais également Juda, a rejeté l'Éternel et tous deux sont devenus matérialistes. Ils se sont construits des palais et ont fortifié leur ville, mais ce sera en vain. On sait que le roi assyrien Sennachérib détruisit bon nombre de villes fortifiées en Juda. On peut se moquer de Dieu tant qu'on veut, mais le temps travaille pour lui, car il a déjà pris rendez-vous avec chacun d'entre nous.